Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel et voici donc notre émission sur la prison. Que se passe-t-il à Châteaudun? Que se passe-t-il depuis que la prison de Chartres a fermé et que le centre de détention basé au sud de Châteaudun a accueilli l'ensemble de ses prisonniers? Pour cette émission spéciale, j'ai demandé à Jean-Pierre Hainaut, qui est aumônier à la prison de Châteaudun et aussi aumônier régional de la région pénitentiaire de Dijon, de venir nous présenter son équipe et tout ce qu'il se passe en ce moment dans le centre de détention. J'ai donc ici avec moi Jean-Pierre Hainaut. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
J'ai également à ma gauche Vincent Bataille, lui aussi aumônier de Châteaudun. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Ainsi que Elisabeth Rouet, qui est la référente du Secours catholique pour les prisons. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors, je vais commencer d'abord avec vous Jean-Pierre. Pouvez-vous un peu nous expliquer déjà votre mission? Qu'est-ce que c'est qu'être un aumônier quand on est un laïc?
Dans les aumôneries de prison, la première chose qui est importante, effectivement, c'est de constater qu'on travaille en équipe, ce qui est pas toujours le cas dans les petites maisons d'arrêt. Mais donc une équipe d'aumônerie de prison, c'était traditionnellement en général un prêtre et puis un ou deux laïcs à ses côtés. L'évolution après le concile fait que nous sommes plutôt majoritaires au niveau des laïcs. Il y a nationalement en gros un tiers de prêtres, des diacres, et puis il y a des hommes et des femmes, puisqu'il y a des prisons pour des hommes et pour des femmes. Et donc l'aumônier que je suis est laïque. Dans notre équipe, il n'y a pas de prêtre. Et il y a un diacre qui est Marc de Backer. Mais nous sommes avec des états de vie, comme on dit, différents et complémentaires. Donc le fait qu'il n'y ait pas de prêtre dans l'équipe de prison de Châteaudun n'est pas non plus un problème, puisque les prêtres de Châteaudun, du secteur de Châteaudun, viennent régulièrement dans la prison pour la messe, pour des sacrements, et nous accompagnent dans nos réunions d'équipe.
Très bien. On va revenir sur tous ces éléments. Je me tourne maintenant vers Vincent. Vincent, donc vous êtes également aumônier de Châteaudun, je crois, depuis 4 ans.
Ça fait 4 ans, bien sûr.
Bien sûr, absolument. cette expérience que vous vivez en tant qu'aumônier, comment vous la définiriez pour ceux qui n'y connaissent rien?
Alors, nous sommes aumônerie catholique, bien sûr, mais il ne faut pas croire non plus que l'on passe son temps avec les détenus à parler de religion, bien entendu. On est beaucoup plus porté à l'écoute. On est d'abord à l'écoute de ces gens-là, des détenus qui nous racontent leur misère. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, leurs misères. Ils ne nous racontent pas forcément toute leur vie. Ça, c'est des choses qui viennent petit à petit ou pas du tout. Mais surtout, ils ont besoin d'avoir une oreille et qui leur permet d'exprimer leur mal-être et leur vie difficile dans une prison.
Alors ça, justement, ces questions de visite auprès des détenus, on va y revenir tout à l'heure. Là, je suis vraiment en train de brosser le plan général pour que nos auditeurs puissent cerner un peu l'ampleur de votre mission. C'est pourquoi je me tourne vers Elisabeth. Donc Elisabeth, vous êtes référente du Secours catholique. Ça fait un an maintenant que vous avez rejoint l'équipe.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'articulation entre le Secours catholique et la prison?
L'aumônerie
de prison.
Tout à fait. En fait, le Secours catholique est en partenariat avec l'aumônerie et je rencontre les détenus pour répondre à des besoins qu'ils expriment peut-être plus facilement en s'adressant au Secours catholique. Besoin de vêtements, besoin de tout simplement de relations avec leur famille, puisqu'en étant référente du Secours catholique, je peux aussi être en relation avec les familles des détenus, ce qui n'est pas possible pour les aumôniers.
Vous pouvez aller les rencontrer chez eux?
Non. Il m'est arrivé d'en rencontrer. Ça n'était pas chez eux. C'était à Paris, par exemple. Mm-hmm. Mais autrement, je suis en lien téléphonique avec les familles. Je suis aussi en lien avec les SPIP.
Alors, les SPIP, c'est quoi?
Ce sont les conseillers d'orientation pour la réinsertion.
D'accord.
Ce qui me permet d'être l'interlocutrice pour les détenus. Ils peuvent arriver et partager leurs problèmes. En fait, quelquefois, quand ils arrivent, ils commencent à parler, et puis petit à petit, on démêle ensemble ce qui va les aider. Et je voulais répondre à votre question précisément en disant ça, c'est vraiment l'action du Secours catholique. Être à l'écoute et apporter l'aide.
Une aide concrète.
Une aide concrète, oui, dans ces cas précis.
Quand vous disiez, ils viennent me demander des vêtements, on est bien d'accord que c'est pour eux ?
Bien sûr.
C'est parce que...
Bien sûr, oui.
Alors, ce que je vais vous dire va vous faire hurler, je vous présente mes excuses par avance, mais c'est vrai que quand on pense à la prison, spontanément, on se dit, bon, ils sont en prison, on ne les voit plus. Donc, c'est vrai qu'il faut imaginer que derrière, il y a toujours une vie. Enfin, ils sont toujours là, présents, toujours cette vie qui est différente de la vie qu'ils avaient quand ils étaient libres. Mais l'impression que l'on a quand on parle d'une prison, de détenus, déjà, il y a cette idée que, bah voilà, ils ont été jugés ou ils sont en cours en attendant un jugement, mais s'ils sont là, c'est peut-être pas par hasard. Donc il y a une notion de justice qui est nécessaire. Mais on est aussi un peu gêné en se disant, mais on les prive d'une liberté et ça peut durer très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de mal-être, de malaise de parler des détenus qui sont toujours nos concitoyens, qui sont toujours nos contemporains, mais qu'on ne voit plus et qu'on oublie. On oublie ce quotidien.
Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que ces détenus, ils vont sortir un jour. Et qu'il faut les préparer à cette sortie, et qu'il faut aussi les accompagner dans leur temps de détention, c'est très important. Il ne faut absolument pas les laisser dans une solitude qui peut leur paraître un abandon de la société, et quelque part, ça crée un grand malaise.
Alors Jean-Pierre, justement, je voudrais revenir sur cette question de... Alors, on parlera plus avant de la solitude, parce qu'on se dit solitude, mais apparemment, ils sont très nombreux. Ils sont combien dans ce centre de détention ?
C'est un centre de détention de 600 places. Hein, c'est-à-dire qu'il y a entre 570 et 580 personnes actuellement.
Alors, c'est un centre de détention pour hommes ?
Hommes uniquement.
D'accord. Quand on parle de centre de détention, par rapport à une prison, c'est quoi la différence ?
Il y a trois sortes principales de prisons. Ça commence par la maison d'arrêt, comme il y en avait une à Chartres, où on est arrêté, mis en cellule et en attente de jugement, le temps que le dossier soit préparé par les avocats, qu'on passe au tribunal. Donc ça, on est prévenu. Et puis, du jour où la condamnation tombe, selon la durée de la condamnation, on est orienté soit vers un centre de détention, si on a une peine de plus de 2 ans ou plus, soit vers une maison centrale, où là, ce sont les très longues peines et les profils très difficiles ou dangereux.
D'accord, ce qui n'est pas le cas de Châteaudun.
Alors à Châteaudun, le centre de détention reçoit beaucoup de personnes qui sont en fin de peine, comme on dit, qui sont là pour quelques mois, quelques années. Mais il y a aussi des gens qui pourraient être du ressort d'une centrale, qui sont passés par les assises, mais qui n'ont pas un profil dangereux. Et du coup, qui sont accueillis dans un centre de détention où c'est quand même moins dur comme régime.
Et il y a aussi les prévenus aussi qui sont à Châteaudun ?
Non, il n'y a pas du tout de section maison d'arrêt à Châteaudun.
Il n'y en a plus du tout sur la région centre ?
Alors, ils sont à Orléans. Ils sont orientés
d'accord.
à la nouvelle prison d'Orléans-Sarron,
d'accord.
qui est un gros centre, puisque simultanément à la fermeture de la maison d'arrêt de Chartres, il y a eu la fermeture de la maison d'arrêt d'Orléans, qui était la vieille maison d'arrêt. Et avec une construction à Sarran d'un gros centre 800 places comprenant deux maisons d'arrêt hommes, une maison d'arrêt femmes, un centre de détention et un centre de semi-liberté.
D'accord.
Bon, il y a eu des incidents climatiques l'an passé au mois de juin et de grosses inondations qui ont fait que ce centre tout neuf, moins de 2 ans, est fermé pour moitié parce qu'il y a eu des gros dégâts.
D'accord.
Donc actuellement, il n'y a plus que maison d'arrêt à Orléans-Sarran et le centre de détention a été fermé et les gens étaient répartis, entre autres à Châteaudun et dans toute la région pénitentiaire.
Comment font les familles dans des situations pareilles ? Notamment, je pense particulièrement pour ceux de notre Eure-et-Loir, mais qui, voilà, c'était sur Chartres pour ceux qui étaient prévenus, donc si j'ai bien compris, sinon ils allaient à Châteaudun ou à Orléans. Maintenant, c'est à Châteaudun, mais c'est pas à Châteaudun, on est d'accord, c'est dans la Verte, enfin, c'est loin de tout.
Le centre de détention de Châteaudun, il reçoit des gens, beaucoup d'Île-de-France. La population est quand même aussi beaucoup, depuis maintenant presque 8 ans que je vais dans cette maison, la population a rajeuni. Il y a beaucoup la petite délinquance qui déborde la région parisienne et qui est accueillie à Châteaudun. Et puis il y a beaucoup d'étrangers qui sont pris... sur des aéroports par exemple qui ne connaissent pas notre langue et qui se font pincer et juger très rapidement.
Mais qui se font pincer parce qu'ils sont réfugiés ou migrants ou qui sont pincés parce qu'ils ont fait des actes
de trafic.
Ah, des trafics, d'accord. D'accord. Ouais. Pas dans un cas de...
Non, c'est...
D'extrême, d'accord. Ouais. Alors, là, vous m'avez donné un petit peu rapidement le profil des personnes qui sont dedans, mais concrètement, comment font les familles pour les rejoindre?
Donc, les familles, il y a ce qu'on appelle les parloirs,
oui.
Pour certains. Il faut des tas d'autorisations, et donc les parloirs dans le centre de détention n'ont lieu que le samedi et le dimanche, alors que dans les maisons d'arrêt, ça, c'est toute la semaine.
D'accord.
Et les parloirs, les gens, c'est un peu compliqué pour beaucoup parce que Châteaudun est desservi par des autocars, par une petite ligne de chemin de fer secondaire, et que la gare est à plus de 2 km du centre de détention.
Oula.
Donc ça pose effectivement pour les familles beaucoup de soucis. Et puis ça a un coût, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de pauvreté en prison. Et beaucoup de familles dans la pauvreté, donc se payer un déplacement de 100, 150 ou 200 km avec la famille pour venir, et quitte à quelquefois arriver 10 minutes en retard et être refoulé, parce qu'il faut être là une demi-heure avant. Mmh. Voilà, il y a des conditions difficiles pour les familles.
Mmh. RGC.
Vers Vincent, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment se passe une journée d'aumônier? Qu'est-ce que c'est que ces visites auprès des détenus?
Alors une visite, en ce qui me concerne, ça se passe par demi-journée. Une journée, ce serait certainement trop, et puis pas possible. Parce que nous avons malheureusement des horaires très stricts, rigides, à respecter. On en est rendu maintenant qu'on ne peut plus intervenir le week-end, le samedi-dimanche, ce qui est très dommage. Parce que c'est un jour, enfin ce sont deux journées où l'ambiance de la prison est un petit peu plus calme, il n'y a pas le travail, on trouve facilement les détenus, on peut les rencontrer beaucoup plus facilement. Bon, ça n'est plus possible maintenant. Et donc les horaires, c'est 14h30, 17h30 l'après-midi, et le matin c'est 10h midi. Donc c'est quand même c'est quand même très court, et il faut savoir qu'on passe souvent beaucoup de temps avec les détenus, en fonction de leurs demandes. Alors comment ça se passe? Eh bien, quand on arrive à la prison, d'abord il faut savoir qu'il faut passer par un certain nombre de portiques
de sécurité.
Savoir si voilà, portique de sécurité, beaucoup de portes. Bon, tout ça au début c'est un peu perturbant. Ça l'est toujours d'ailleurs, perturbant. Et on se dirige généralement jusqu'à la partie qu'on appelle le socio, où il y a des services communs, bibliothèques, les cours sont dispensés à cet endroit. Quand les détenus rencontrent leur SPIP, la personne qui s'occupe de leur dossier, ils le rencontrent à cet endroit. Et nous avons un petit bureau qui nous permet de mettre, stocker quelques matériels, des bibles, des chapelets, tout ce que les détenus peuvent nous demander. Et de pouvoir retrouver à cet endroit différents documents qui nous sont remis par l'administration, sur lesquels nous avons par exemple la liste des détenus et le lieu où on peut les trouver.
D'accord.
Il faut savoir que les détenus changent souvent de place. On les change souvent de cellule pour diverses raisons, sécuritaires sans doute beaucoup, ou parce qu'ils ont commis une faute, donc on va les mettre autre part dans la prison, dans des endroits où ils vont être confinés. Donc nous, il faut qu'on suive tout ça.
Bien sûr.
Et parfois, c'est pas simple parce qu'on va se pointer là où on pense les trouver, et puis, j'ai l'impression, voilà. Et parfois, on ne les trouve pas du tout. Pendant 8 ou 15 jours, ils ne sont même plus sur les listes qu'on nous distribue. Bon, il y a des petites anomalies, c'est drôle. C'est moins drôle pour eux.
Oui.
Alors, dans une après-midi, me concernant, j'arrive à voir 8-10 détenus quand ça va vite. Mais parfois, on n'en voit que 2 ou 3, en fonction de la demande, en fonction de ce que les gens attendent de nous. Ils ont parfois des grosses choses, des gros problèmes. Donc ils ont beaucoup de choses à dire. Alors on les écoute pendant longtemps, on essaye d'échanger. Bon, nous sommes catholiques et on pourrait penser que l'on parle, je disais tout à l'heure, beaucoup religion, ce qui n'est pas toujours et pas souvent le cas. Il nous arrive quand même de terminer aussi une rencontre avec un détenu, avec une prière. Ça, ça demande, pourquoi pas. Mais ça, c'est pas souvent quand même.
Donc là, vous êtes seul avec le détenu.
Et là, on est seul avec le détenu. Alors oui, à préciser que nous allons, ce qu'on appelle, nous, en détention. C'est-à-dire dans la partie où les détenus sont vives. Ce sont des ailes sur plusieurs étages. Alors sud, nord, est, ouest, il y a une vingtaine de cellules à chaque fois. Et les cellules, c'est 4 mètres de profondeur par 1 mètre de large. Bon, c'est quand même très petit. Là-dedans, il y a un lit, une table, un endroit avec toilette et un lavabo. Tout ça est très moche. C'est que du béton.
Youpi.
C'est
ils sont
très
seuls par cellule ?
En général, ils sont seuls par cellule. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des doublettes. Il y en a quelques-unes. Oui.
D'accord.
Mais ils sont, en général, ils sont très demandeurs d'être tout seuls.
Ouais, je comprends.
Ils y sont très bien. Donc nous les voyons, la détention, c'est quand même un endroit très très dur. Nous avons certains détenus qui passent 24 heures sur 24 dans la cellule.
Qui ne sortent pas.
Alors ils ont le droit de sortir dans la cour, promenade, deux fois par jour, mais il y en a qui ne désirent pas, pour diverses raisons. D'abord parce qu'ils n'ont peut-être pas envie, tout simplement, ou parce qu'ils n'ont pas envie de rencontrer d'autres détenus avec lesquels ils savent que...
Vaut mieux pas les rencontrer.
Ils vont avoir des problèmes. Donc, nous en connaissons qui sont 24 heures sur 24. C'est épouvantable, je trouve. 24 heures sur 24.
Oui, c'est ça, ils sont dans un enfermement complet.
C'est un enfer. Un enfer d'enfermement, oui. Épouvantable.
Je voudrais me tourner maintenant vers Elisabeth. Vous n'allez pas en détention. Vous allez donc dans le socio.
Voilà. Moi, je tiens une permanence hebdomadaire. Et les détenus viennent me rencontrer. Je dépose une convocation. Et ils viennent me rencontrer avec cette convocation qu'ils présentent aux surveillants de façon à pouvoir arriver jusqu'aux sociaux. Et ils me parlent beaucoup de leur vie en détention. Ils me parlent aussi beaucoup de leur attente, parce qu'en fait, ils sont toujours dans l'attente. Quand ils arrivent, ils attendent quelquefois 3 à 4 mois avant d'avoir du travail aux ateliers.
Alors oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir comment se passe la vie d'un détenu une fois qu'il est, ça y est, il est en prison, mais enfin sa vie continue. J'ai entendu parler de cours, j'ai entendu parler d'emploi.
Oui.
La journée d'un détenu, c'est réveil à 7h, donc un surveillant passe et tape à la porte et vérifie par l'œilleton que la personne est vivante, est présente. Et puis il y a un appel pour le travail. Alors ceux qui ont la chance d'être classés en atelier, il y a en gros 150 emplois pour 600 places.
Oula.
Donc il y a des ateliers, il y a trois types d'ateliers. Il y a les ateliers où on fait du tri d'oignons. Il y en a beaucoup dans la région, donc c'est un bon marché. Il y a un atelier où on fait de la finition de pièces de caoutchouc pour l'industrie automobile. Et puis il y a un atelier cosmétique où on fait de l'emballage.
D'accord. Bon.
Voilà, donc ce sont des pôles qui sont très présents dans l'industrie locale et qui font du travail de sous-traitance avec la prison. Au-delà de ça, il y a des emplois d'oxy, dans le jargon. Dans chaque étage, il y a un oxy d'étage, l'auxiliaire, qui est responsable de la propreté des parties communes. Donc il fait le ménage, il rend différents services. Et puis il y a la blanchisserie. C'est un certain nombre d'emplois très recherchés. parce que c'est stable et ça paye régulièrement. Alors qu'en atelier, s'il n'y a pas beaucoup de marché, s'il y a une période où il n'y a pas suffisamment de travail pour tout le monde, on va être appelé une ou deux fois par semaine. Et le tarif de paye, ça se compte en euros. Hein. Ce n'est pas en milliers d'euros, ni même. Quelqu'un qui a un bon job dans la prison, il va gagner 200 euros sur le mois.
Je rebondis pour vous dire ce que j'entends beaucoup, c'est que en fait, sur ces 200 euros, en général, les détenus envoient 100 euros à leur famille quand ça n'est pas 150 et gardent le reste pour cantiner ou pour payer leur télévision.
Justement, c'était ça ma question. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est un père de famille est en prison. Comment sa famille continue-t-elle pour vivre, sachant que lui est en prison? Est-ce qu'ils ont des aides? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais concrètement, est-ce qu'ils ont...
Il n'y a évidemment aucune aide pour la famille.
Et pour lui.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de détresse. Et puis, il y a des familles qui sont à l'étranger aussi. Hein. Donc, de fait, certains, à l'issue du mois et de leur paye, en renvoient une partie de leur paye. Bon, après, d'autres vont, comme dit Elisabeth, cantiner, c'est-à-dire acheter des produits pour mieux manger, parce que la cuisine industrielle qui est fabriquée. Dans la cuisine centrale de la prison, ne convient pas toujours. Donc on se fait une petite amélioration. Et d'ailleurs, pour nous, les aumôniers, c'est assez intéressant parce que il y a par étage, il y a ce qu'on appelle un office, une cuisine où il y a des fours et des plaques de cuisson et un évier. Donc là, entre telle heure et telle heure, le soir de 5 à 7 ou de 5 à 6, selon les étages, on peut se faire un petit peu de cuisine. Et c'est un lieu de rencontre très intéressant pour les aumôniers parce que là, on parle de plein de choses. On rencontre des gens qui ne souhaitent pas forcément rencontrer un aumônier individuellement, mais où il s'instaure des discussions assez riches et assez... Voilà, il y a beaucoup de demandes à ce moment-là. Peut-être en dire un mot sur les familles parce qu'effectivement, comme l'a bien dit Elisabeth, nous, les aumôniers, notre mission est dans la prison. Et certainement pas dehors. On ne doit pas tout mélanger. Ça a pu poser quelquefois dans des maisons d'arrêt des problèmes graves à des aumôniers qui ont voulu faire la passerelle. Nous sommes dans la prison pour notre mission d'aumônerie. Dehors ou à la frange, il y a les associations. Il y a donc le Secours catholique prison qui, lui, à travers des personnes comme Elisabeth, peut avoir des relations avec les familles. En toute transparence avec les services sociaux de la prison. Mais nous, surtout, ne pas
interférer.
Se mêler de cela. Ça, c'est capital pour avoir les mains libres et avoir la confiance aussi des personnes détenues qui, du coup, l'aumônier est quelqu'un de très complètement à part dans le schéma de la prison. Nous ne sommes pas de la pénitentiaire, nous ne sommes pas du médical, nous ne sommes pas du psychologue, nous ne sommes pas juriste, avocat, etc. On va recevoir des choses que même l'avocat ne pourra pas recevoir.
C'est ça. Et pourtant, il y a cette nécessité de votre présence dans le système pénitentiaire où on s'est rendu compte que votre présence permettait quelque chose au sein de la vie dans la prison. C'est bien ça ?
Tout à fait. On a souvent la sensation d'être des... On apporte de la tempérance, on apporte de l'apaisement auprès des détenus. Et certains détenus qui sont parfois un petit peu excités, on va dire, hein, le fait de les rencontrer, une demi-heure, une heure, eh bien, pendant quelques jours, ça les maintient dans un climat un peu plus apaisé. Et les surveillants nous le disent, ça.
Oui,
donc, voilà, notre présence, elle sert aussi à ça, tout simplement.
Alors, moi, en tant que référente de Secours catholique, je dirais que c'est très important qu'il y ait cette transparence dans toutes mes actions, que ce soit rencontre avec les familles, que ce soit par exemple quand un détenu vient m'expliquer un problème ou ce qu'il pense être un problème dans sa situation administrative. L'important, c'est de pouvoir agir en toute transparence avec les services du centre de détention et leur communiquer quand je suis en relation avec les familles ou leur communiquer tout simplement ce qui peut ne pas paraître clair ou ce qui est pour par exemple un problème de réinsertion. Bien souvent les détenus essayent d'agir bien en amont, de façon à mettre le plus de chances de leur côté pour retrouver une formation, un hébergement. C'est quelque chose de, pour eux, c'est vital. Hein, c'est vital. La grande question, c'est, bon, quand je vais sortir, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Parce qu'il faut répondre à la question alimentaire. On a besoin de travailler pour vivre. Et ça, ils le ressentent. En tout cas, il le présente comme ça et il le présente dans un grand besoin. Donc, c'est très important que de pouvoir revoir ça avec les travailleurs sociaux de la prison qui sont vraiment très à l'écoute. Moi, je ressens une grande écoute, un grand respect du travail de chacun. Et ça, c'est très, très important.
Oui, comme ça, on collabore mieux au service, justement, des détenus pour leur réinsertion.
Absolument, absolument. Et puis, disons qu'on a plus de facilité à venir à la rencontre, parce qu'on s'en sent soi-même accueilli et rencontré.
Absolument.
C'est très important.
RGC.
J'entends tous les trois me parler de ces détenus, on sent qu'on leur court un peu après, que c'est pas évident, vu leur emploi du temps tellement, tellement chronométré, tellement suivi, mais j'entends beaucoup cette notion de solitude dont on parlait au tout début de l'émission, cette idée qu'ils ont besoin d'être dans un contact qui soit, on va dire, un peu plus apaisé, ou en tout cas en dehors de la prison. Vincent, si vous deviez m'expliquer comment les détenus vous perçoivent? Ils parleraient de vous comment?
Alors, ils ont une grande admiration pour nous, d'abord de notre présence. Souvent, ils nous posent la question, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu viens là? On est souvent perçus un petit peu comme des pères pour eux.
D'accord.
Évidemment, on est tous un peu âgés, donc par rapport à eux. Donc ils nous considèrent un petit peu comme ça. Et ce côté admiration, c'est le côté bénévolat. Quand on leur explique qu'on est là en tant que bénévole, ça, ils ont du mal à admettre cette notion. Donc, tu n'es pas payé pour faire ça. Bon. Ça, c'est très... Oui, ça les surprend. De même, comme nous sommes catholiques, les musulmans sont surpris qu'on les écoute. Ils nous le disent. Comment se fait-il que vous me donnez les horaires de prière? Pourquoi vous faites ça? On fait ça parce que ça te rend service, on va le faire. On a ce côté, on est tolérant. Oui, on est perçu, c'est très satisfaisant pour notre égo, la perception qu'ils ont de nous, ça, c'est clair.
Mais ça les interpelle.
Mais ça les interpelle énormément.
Ne se rendre compte qu'ils ont de la valeur pour eux-mêmes.
Alors voilà, ils ont... Ce qui est bien pour eux, je pense, enfin notre intervention, notre présence, c'est que... ils ont le sentiment d'exister.
Ouais.
Ils ne sont pas complètement oubliés au fin fond d'une cellule. Il y a quand même quelqu'un qui est à leur écoute. Et ça, je crois que pour un humain, c'est quand même quelque chose d'important. C'est notre premier boulot. C'est simplement de notre présence leur dit « vous existez pour quelqu'un ». Je pense que ça fait du bien quelque part.
Ça fait du bon.
Voilà. Et on n'a rien d'autre à faire. C'est facile, ça.
C'est facile, mais il faut être là.
Parce que parmi ceux que l'on rencontre, il y en a beaucoup qui n'ont pas de parloir.
Qui ne rencontrent personne.
Qui ne rencontrent personne. Alors, soit parce que ce sont des gens, sont des étrangers, d'une part, ou alors des gens dont très pauvres et dont les familles n'ont pas les moyens de se déplacer, ou alors des gens qui sont en rupture familiale aussi. Donc, finalement, c'est vrai qu'il y a un grand, grand besoin de rencontre. et un grand besoin de régularité dans cette rencontre. Mmh. Moi, je l'ai senti au début. J'avais institué une permanence tous les 15 jours. Et finalement, ils ont besoin de plus.
Ah.
Et puis, ils sont plus nombreux. Donc, il faut répondre.
Ah oui, donc il y a vraiment, vous avez créé un besoin là.
Oui. Une bonne chose. J'ai répondu à un besoin.
Oui, voilà, plutôt. Jean-Pierre ?
J'aimerais ajouter que, parce que jusqu'à maintenant, entre nous, là, on vient de parler beaucoup de choses négatives, difficiles, dures, de la vie en incarcération. Mais quand vous posiez la question à Vincent de savoir comment est perçu l'aumônier, on est attendu, accueilli. Tu viens, 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 on va prendre un petit café. Et puis, il y a de la joie. Il n'y a pas que de la tristesse et, mmh. et des choses dures. Il y a la joie de la rencontre qu'on apporte. Et aussi, voilà, il y a des temps d'humour, il y a des temps de plaisanterie, il y a des temps de fraternité. Hein, mmh. On peut aller jusqu'à dire ça. Et donc, voilà, je voulais donner un petit peu cette tonalité.
Parce que l'homme est très humain, enfin, l'homme est en relation, donc vous permettez cette relation, cette relation qui se tisse. C'est pas forcément de l'amitié profonde, mais ça peut à la rigueur venir. Mais il y a cette fraternité, cette camaraderie qui se met en place. Et il y a dans la prison donc les détenus, mais il y a aussi le corps pénitentiaire autour. Ça se passe comment avec les gardiens? Ils vous accueillent comment? Vous ne faites pas de l'aumônerie pour eux, c'est juste pour les détenus.
On nous apprend, quand on fait nos formations initiales en aumônerie des prisons, qu'on vient dans un lieu, un établissement pénitentiaire, déjà, donc on n'est pas chez nous.
Bien sûr. Hein,
et je discutais hier avec l'aumônerie nationale, où on disait l'aumônerie catholique, quand elle est en prison, elle est hors sol. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sur le terrain. Des paroisses.
Ouais.
On est hors sol, on n'est pas chez nous. Mmh. Et on vient dans un lieu très laïque,
c'est vrai.
Mais où la laïcité est très bien appliquée et très bien présentée, parce qu'il y a quand même les sept religions peuvent être présentes à travers des aumôneries.
Alors, sept, dites-moi, c'est quoi ?
Catholique, historiquement, protestant, orthodoxe, juif, israélite, bouddhiste, témoin de Jéhovah. Qu'est-ce que je vous dis ?
Puis
bien sûr, les musulmans, voilà. On parlait tout à l'heure des horaires de prière que nous donnons régulièrement, parce qu'à Châteaudun, de longue date, il n'y a pas eu d'aumônier musulman. C'est très compliqué à trouver, à mettre en place, justement, parce qu'ils n'ont pas trop de gens qui peuvent être bénévoles. Mmh. Et donc, il y a maintenant un aumônier, mais qui ne suffit pas à la tâche, loin s'en faut.
Vous parliez de la population carcérale il y a quelques minutes. Vous me disiez, c'est une population qui s'est rajeunie. Quand on dit jeune, c'est quoi comme moyenne d'âge ?
Ben écoutez, il y a des gens qui arrivent à Châteaudun, qui ont déjà été dans des prisons pour enfants.
Hein, donc,
dès l'adolescence, qui ont été dans la délinquance, dans des choses dures. Et en général, ce sont des jeunes qui n'ont pas eu de famille, qui ne connaissent pas leurs parents, qui ont vécu des choses atroces dans la maison, et qui donc se sont trouvés dans des foyers, de foyer en foyer, séparés entre les frères et sœurs. Et voilà, donc ces gens-là, ils sont, quand on parle de réinsertion, ils n'ont même jamais été insérés.
Déjà à l'origine.
Donc il y a des très jeunes, 18, 20 ans, voilà, de plus en plus. Mmh. Et des anciens, ceux que je me permets d'appeler les routards de la pénitentiaire, parce qu'il y a effectivement des gens qui ont des décennies de prison. Oui. Ils ont fait tant d'années, puis ils sont repartis 2-3 ans et on retombe. Mmh. Donc, mais ils sont beaucoup moins nombreux.
Justement, cette notion de réinsertion, quand vous m'aviez présenté tout à l'heure en début d'émission les questions de centrale, les différentes structures qu'on peut appeler prison, à vous entendre, j'avais l'impression que Châteaudun était un lieu où c'est la dernière étape avant de partir.
Oui.
Donc c'est-à-dire que la notion, je pense, de réinsertion ou d'insertion, selon l'étape où on en est, joue beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pu constater ou voir? Comment ça se passe une insertion, on est réinsertion d'un détenu vers la vie, parce qu'un jour la porte va s'ouvrir, il va repartir. Mmh. Ça doit être quand même assez fort comme expérience.
Oui, oui. Mais bon, c'est dur à dire, mais on est notre société est en grand échec par rapport à la réinsertion.
Mmh.
On va dire que c'est pour dire que je dirais même pas, moins de 10% de personnes sortent de la prison avec un projet qui tient la route.
Moins de 10%?
Ah oui, il y a énormément de... Donc, le but, c'est d'éviter la récidive, mais on fait pas vraiment ce qu'il faudrait pour l'éviter, parce qu'il n'y a pas suffisamment de structures d'accueil. Et on sait très bien que l'enfermement n'est pas la panacée et la solution pour tout le monde, pour pouvoir repartir sur le bon pied.
Radio Grand Ciel.
En tant qu'aumônier catholique, donc Jean-Pierre et Vincent, votre mission étant d'être, de témoigner de la dignité de la personne que vous avez en face de vous, de rentrer en relation, de le faire vivre en tant qu'homme digne, et est-ce que cette relation, vous avez pu constater que ça a permis à certains de se reconstruire, de se relever? Est-ce que ça a permis des cheminements aussi vers la foi? Ça fait deux questions.
Hein, mais... Oui, il y a deux questions, oui. Moi, je vais vous parler d'abord de la question matérielle, parce que c'est vivre une foi efficacement si on n'a pas une vie... l'essentiel qui fonctionne, oui, le reste, c'est quand même dur, en général. Enfin, c'est comme ça que je le vois. En ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de suivre un détenu. Oui, tout à l'heure, je vais quand même rajouter tout de suite. On a l'habitude, à Châteaudun, nous sommes quatre aumôniers en détention, et on a l'habitude de suivre, quand on commence avec un détenu, en général, on essaye de le suivre jusqu'au terme.
Ah, super, d'accord. Hein,
on voit toujours, on voit souvent les mêmes. Mmh. Bon, parce que la qualité de la relation, ce que disait aussi Elisabeth tout à l'heure, nous paraît très importante pour qu'il y ait une certaine efficacité dans notre démarche.
Mmh. Une fidélité.
Alors, oui, c'est
de
ça.
Fidélité, de fidélité, ouais. Quand je dis efficacité, c'est
ouais, je
pas...
Comprends.
Bon, ça nous paraît important. Je parlais donc d'un détenu que j'ai eu l'occasion de suivre, par exemple. Mais c'est pas un exemple qui est généralisé, c'est dommage, par rapport à sa sortie, qui a suivi une formation en électricité au sein de la prison, puisque ça fait partie des formations qui sont proposées. Malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. Alors ça a été des hauts, des bas. Bon, mon rôle, ça a été de l'encourager toujours.
À tenir.
L'année où, oui, presque une année où durait cette formation. C'était pas simple, hein. Mais bon, on a réussi à faire quelque chose. Il a eu son diplôme au bout du compte, et quand il est parti, il avait un patron qui l'attendait dehors. Donc, ça, c'est une réussite. Mmh. De temps en temps, ça oui. fonctionne très très bien. Mais bon, c'est le seul que j'ai eu comme ça où vraiment ça a bien débuté à la prison, ça s'est bien déroulé parce que. On a fait tout ce qu'il faut.
Et qu'il avait un projet.
Et puis il avait aussi envie de s'en sortir, vraiment.
Oui.
Parce qu'il faut que tout... Il faut que dans la chaîne, tous les maillons fonctionnent. Là. Autrement, c'est très souvent un petit peu plus compliqué que ça. C'est vrai. J'en suis un autre actuellement aussi, qui, lui, a un vrai métier dans la vie. Il fait de la soudure, on peut le dire. Il est spécialiste en soudure. Il a travaillé sur les chantiers navals. Bon, lui, il va s'en sortir parce qu'il va trouver du travail. C'est un métier où il y a du travail et puis il a envie de bosser. Donc je suis tranquille, quand il va sortir, pour lui, ça va marcher. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. C'est Jean-Pierre disait 10% peut-être. Ouais, c'est faible.
Oui, c'est ça, il reste 90 à côté.
C'est faible parce que nous n'avons pas cette culture et je crois que le pays, enfin l'administration d'une manière générale, ne met peut-être pas suffisamment les choses en place. Les raisons, je ne sais pas, mais En tout cas, il manque beaucoup de choses pour que ça puisse fonctionner.
Je comprends. Ouais. Donc, on a une aumônerie donc, hors sol, je retiens. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une paroisse, c'est un lieu où voilà, vous êtes tout donné et puis vous prenez ce qu'on veut bien recevoir de vous. Mais ce que vous vivez là, tous les trois, enfin tous ensemble dans cette équipe, c'est quand même assez fort. J'imagine que vous avez des temps de lecture entre vous. Comment ça se passe?
Toutes les six semaines, on se retrouve ensemble et accompagné, même maintenant, par deux prêtres, hein, par Bernard Mercier et puis Abel Saint-Pierre, qui viennent à tour de rôle pour la messe le dimanche et qui, lors de notre réunion, sont là. Alors, on a mis en place depuis quelques temps entre nous, depuis deux ans, chaque fois que nous avons passé notre après-midi dans la détention, on fait un petit rapport qu'on se passe par Internet. C'est-à-dire que tous les membres de l'équipe savent qui Vincent aura rencontré jeudi après-midi, qui Rémi a rencontré mercredi, qui Marc a rencontré le mardi. Et également, Elisabeth est dans le circuit, c'est-à-dire que ces permanences qu'elle fait le vendredi après-midi, on est aussi destinataire de son rapport. Donc,
Vous dites ce que vous vous êtes dit dans les grandes lignes ou pas?
Dans les grandes lignes, oui.
Voilà.
Il y a quand même des choses qu'on essaye de garder confidentielles, parce que les détenus, parfois, nous racontent des choses très personnelles. Bon, c'est un peu comme le confessionnal, finalement. Il y a des choses qu'on peut se garder. Mais on échange quand même beaucoup sur l'essentiel. Ça nous permet comme ça de...
Et ça nous permet aussi d'être plus efficaces.
Et puis d'être plus efficaces.
Plus attentionnés par rapport à cette
personne.
On peut avoir une approche différente, mais on se retrouve pour répondre au mieux. Et ça, c'est très important.
Donc là, c'est l'aumônerie catholique. Est-ce que vous voyez les autres aumôniers des autres religions?
À Châteaudun, assez peu. Il y a des prisons où ça fonctionne bien, l'œcuménisme en particulier, des prisons où même le culte est fait de manière œcuménique entre les catholiques et les protestants. À Châteaudun, il y a deux aumôniers protestants. Donc on se croise, on se voit, on a des relations tout à fait normales.
Épistolaires.
Il est vrai que notre équipe est beaucoup plus présente. Du fait du nombre que nous sommes. Et après, l'aumônier musulman, on le rencontre de temps en temps, et c'est quelqu'un de très affable, mais qui est...
Il est tout seul.
Qui est tout seul, donc dépassé par la... Il faudrait qu'il soit au moins deux aumôniers musulmans. Et je sais que l'administration y travaille pour essayer de susciter, mais voilà, les agréments d'aumôniers musulmans sont compliqués.
Donc vous aussi, vous avez tous été agréés, j'imagine? Ça veut dire que vous êtes passé par une formation ou un test ou...
On est appelé, chacun de nous a été appelé, le jour où l'un des aumôniers qui nous ont précédés nous a appelés, on ne s'attendait pas du tout à cet appel, heureusement. Et donc après, nous sommes du coup nommés par l'évêque du lieu, donc ici par Michel Pansard, et nous avons... sur la première année, deux gros week-ends de formation à Paris qui réunissent à peu près 80 nouveaux aumôniers de toute la France.
D'accord.
Et là, le week-end prochain, ça va être le temps numéro 2 pour un certain nombre, dont Marc et Rémi. On va se retrouver à Paris pour cette deuxième temps de formation. Et puis après, tout au long de l'année, donc en plus des séances de relecture que nous avons toutes les six semaines entre nous au niveau de l'équipe, il y a deux temps forts de regroupement régional, donc région Dijon. Donc au fin mars, là nous serons à Nevers, donc les environ 60 aumôniers de la région, pour travailler sur le thème cette année de évangélisation en prison, projet pastoral d'équipe d'aumônerie de prison. Voilà, donc sujet qui va nous réunir pendant deux jours. Et puis, donc chaque année, il y a un gros temps, hein, puisque l'an passé, là, au mois de mars, on était venu à Chartres pour cette récollection. Et puis, on a une journée également à mi-temps de l'année, où ça peut être à Auxerre ou un lieu comme ça, où on travaille sur un sujet précis. La dernière fois, on a travaillé sur le pardon. Parce qu'il y a également régulièrement des sessions nationales auxquelles on peut être invité. Et donc la dernière session nationale qui a eu lieu à Lyon au mois de février dernier, c'était sur la sacramentalité. Donc la rencontre sacramentelle en prison. C'est-à-dire que le sacrement, c'est pas seulement l'Eucharistie du dimanche. On a la chance à Châteaudun d'avoir plusieurs fois par mois la messe, c'est pas partout pareil. Mais ça s'arrête pas là et ça ne commence pas là. C'est-à-dire que notre mission, c'est écrit comme ça dans la loi, hein, nous sommes là pour l'assistance spirituelle. Et j'aime bien dire qu'effectivement, on va toucher le spirituel à travers les personnes qu'on rencontre, qu'elles soient non-croyantes, vaguement baptisées, enfin, quelquefois on ne sait pas, les personnes ne savent même pas si elles ont été baptisées. Et puis, on va aller à la rencontre du côté spirituel qu'il y a en chacun de nous, et on va l'éveiller. Quand on parle d'un parcours pour se relever, on ne fait pas de miracle, nous les aumôniers, pour la sortie et l'insertion, ça nous échappe, ça nous dépasse. Mais l'éveil spirituel, c'est quelque chose de fondamental dans notre mission, sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Mmh. Mais ces relations qu'on a avec les personnes détenues, c'est quelque chose de très mystérieux, hein, mais c'est ce qui se produit. On est envoyé par l'évêque et on est envoyé aussi par notre foi et par l'évangile qu'on entend tous, les gens de la pastorale santé comme la pastorale prison, en Matthieu 25. Hein, donc, j'étais en prison et c'est le Christ lui-même qui dit « C'est moi qui suis en prison et tu es venu me voir. C'est moi le Christ que tu rencontres. » Donc ça, c'est très, très, très prégnant. On vit ça, effectivement, dans la relecture.
C'est une extraordinaire mission qui vous a été confiée et que vous avez acceptée. Alors Jean-Pierre, à vous le mot de la fin pour cette émission. Qu'est-ce que vous voudriez pouvoir nous dire, nous conseiller? Avez-vous besoin de quelque chose? Si quelqu'un a envie, par exemple, en entendant cette émission, ils ont mais moi aussi, je voudrais pouvoir, d'une manière ou d'une autre, au cours de l'année, participer ou aider les détenus d'une manière ou d'une autre, vers qui peut-on les orienter?
Alors, il y a eu tout récemment, avant Noël, une collecte qui a été lancée, donc qui était, il y a quelques années, lancée par l'aumônerie de la prison, et qui maintenant est gérée, ce qui est logique, par le Secours catholique. Mm-hmm. Donc là, il y a un certain nombre de donateurs qui ont fait des dons au Secours catholique pour qu'il puisse y avoir cette opération annuelle d'achat de cadeaux pour les enfants des détenus.
Oui, ça, nous ça avons fait envoyé 90 cadeaux.
Voilà, 90
cadeaux. Oui.
Donc ça, c'est quelque chose de très pratique qui a lieu tous les ans. Et puis après, il y a aussi participer... je dirais de différentes manières, hein, à nous d'être appelants, les équipes d'aumônerie, mais au cours de l'année, il y a différentes façons de pouvoir se manifester. Et puis, il y a aussi comment participer de manière concrète. Alors, pas forcément entrer dans une équipe d'aumônerie, parce que c'est un appel qui se travaille...
Bien sûr.
De longue date, mais nous avons besoin d'étoffer l'équipe d'auxiliaires d'aumônerie à Châteaudun, où on a parlé de Louis-Marie, mais qui est seule, et là il y a un super travail à faire. On a des plages horaires maintenant sur lesquelles on peut organiser des petits ateliers.
Donc ils seraient dans la partie sociaux,
c'est ça ? Voilà. Avec des petits groupes de 5-6 détenus, il y a des prisons, il se fait de très belles choses.
Et donc si jamais on est intéressé, on contacte qui?
Eh bien, l'aumônerie de la prison de Châteaudun, par écrit, on a une boîte postale, c'est très simple, aumônerie prison Châteaudun, c'est la boîte postale 53, 28 205 Châteaudun, et puis ensuite, on peut trouver sur les organes diocésains, je pense, une adresse internet.
Ah oui, je confirme,
une adresse
sur le site des diocèses, peut-être.
Une adresse internet... sur laquelle on peut être contacté. Mais si il y avait une conclusion à donner, j'aimerais terminer par la parabole du Samaritain, qui est connue de tous. Donc les Samaritains, le Samaritain, c'est quand même le type qui a été vigilant, qui a eu le coup d'œil, qui tout d'un coup a vu quelqu'un dans le fossé, alors que tous les autres, ils étaient passés, ils avaient filé leur chemin, ils n'avaient pas trop envie de s'emmerder, à s'arrêter, à aller se secourir ce type. Et ce type, il est blessé, et qu'est-ce que fait le Samaritain? Non seulement il s'arrête, il le prend en charge, et un peu à la manière du Secours catholique, il va aller chercher l'aubergiste et puis donner l'argent qu'il faut pour que le type soit repris en charge, soigné et puisse repartir, après cela repartir sur ses propres jambes, soigné. Et voilà, donc il y a un petit peu un parallèle que je pense qu'on peut bien visualiser, et y compris pour nous, c'est une interpellation pour nous-mêmes dans la prison, parce qu'on doit être toujours en vigilance et attentif à celui qui ne fait pas de bruit, qui ne demande rien. Et quelquefois, c'est celui-là vers qui il faut aller prioritairement, plutôt que d'aller vers celui qui est toujours dans la demande, dans la demande, dans la demande. Mmh. À un moment donné, on a des questions de distance aussi à entretenir par rapport aux personnes qu'on rencontre.
Une sorte de vigilance et d'attention par rapport à ceux qui n'osent plus parler. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Elisabeth d'avoir pris le temps de nous présenter tout ce que vous vivez en ce moment à Châteaudun. Merci encore pour tout votre service en tant qu'aumônier ou en tant que référente du Secours catholique. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver sur Radio Grand Ciel pour une prochaine fois. À bientôt.
Merci.
Merci à vous.
Strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies.
Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes.